Vous écoutez, on lit pour vous.
Seulement 24 amendes pour 800 bâtiments à l'abandon à Montréal, suivi de des bâtiments délabrés, des propriétaires décidés à ne pas bouger. Deux textes de Zachary Goudreau et Jean-François Nadeau, parus le 7 août 2024 dans Le Devoir. Montréal sévit toujours bien peu à l'endroit des propriétaires de bâtiments laissés vacants ou mal entretenus, soit par négligence, soit à des fins spéculatives. L'administration montréalaise utilise-t-elle tous les leviers dont elle dispose pour contrer la détérioration des habitations à l'heure où les besoins de logements se font criants? Premier texte. Rue Saint-Timothée, au coin de la rue Ontario, à deux pas du terminus d'autocar, un immeuble en pierre grise typique de Montréal gît à l'abandon depuis des décennies. Les plus vieilles images répertoriées par Google Street View indiquent que le bâtiment se trouvait déjà dans un état d'abandon avancé en 2007. Selon les données de l'arrondissement de Ville-Marie, cet immeuble de quatre étages construit autour de 1875 n'est alimenté ni en eau ni en électricité depuis au moins une décennie. La palissade de bois qui l'entoure sert de support à des affiches publicitaires. Non loin de là, un autre bâtiment résidentiel abandonné, lui aussi plus que centenaire, s'est effondré rue Saint-Christophe le 11 novembre 2022. Au cours de l'année précédente, l'immeuble avait été la cible d'incidents, dont un incendie jugé suspect par les autorités, rapportait le Journal de Montréal. Le propriétaire, Ramzi Sob, est le même homme qui a racheté en avril 2024 le bâtiment situé au coin des rues Saint-Timothée et Ontario à Marcel-Hubert, Taillefer, pour 810 000 $. L'immeuble demeure vacant depuis. C'est l'enfer, lance Chloé Trujillo, une locataire du bâtiment voisin, qui craint que l'infestation de rats qu'elle a constatée sur la terrasse arrière de son logement ne soit liée à cet immeuble inhabité. Qu'est-ce qui, dans un cas comme celui-ci, empêche une ville d'agir pour que le domaine public ne soit pas défiguré par des bâtiments en ruine? 24 amendes au total. En octobre 2023, de nouvelles dispositions réglementaires sur l'entretien et le maintien des bâtiments entraient en vigueur à Montréal. Quelques mois plus tôt, Robert Baudry, responsable de l'urbanisme au comité exécutif, assurait en conférence de presse que ces mesures allaient avoir des dents et que la ville allait les appliquer. En vertu de ces nouvelles règles, les propriétaires de bâtiments vacants devaient, en 2024, obligatoirement enregistrer leurs bâtiments auprès de la ville. Un formulaire d'enregistrement devait à cette fin être disponible en ligne. Il demeure introuvable. Par courriel, la Ville précise que la date d'entrée en vigueur de cette disposition est prévue d'ici la fin de l'année. Dès lors, les propriétaires de bâtiments vacants devront obligatoirement enregistrer leurs bâtiments auprès de la Ville via un formulaire d'enregistrement qui sera publié par la Ville de Montréal, ajoute-t-elle. La Ville indique par ailleurs avoir remis 24 constats d'infraction totalisant 32 101 $ depuis l'adoption de ce règlement il y a 10 mois. Le but premier du règlement est d'assurer l'entretien des bâtiments et la correction des situations problématiques, ajoute l'administration municipale. Celle-ci affirme ainsi que les constats d'infraction ne peuvent à eux seuls servir à mesurer les interventions faites en matière d'occupation et d'entretien des bâtiments, puisque, dans la majorité des cas, les corrections demandées par les inspecteurs sont effectuées par les propriétaires avant qu'une amende n'ait à être donnée. Sans eau ni électricité. Ce nouveau règlement prévoit par ailleurs que les propriétaires de bâtiments inutilisés devaient aussi démontrer que ceux-ci étaient minimalement chauffés et sécurisés pour éviter les dégradations de l'hiver. En 2022, à lui seul, l'arrondissement de Ville-Marie comptait 41 bâtiments vacants qui n'étaient pas desservis en eau et en électricité. Ce nombre n'a pas fléchi en une décennie. À ce nombre s'ajoutaient 42 autres immeubles qui, rien que pour ce même arrondissement, étaient inoccupés, mais encore desservis par des services publics. la situation n'est guère plus reluisante dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, où l'administration municipale a recensé une soixantaine de bâtiments vacants. Il est possible de les visualiser sur une carte interactive. Pour l'instant, les autres arrondissements montréalais n'ont pas rendu leurs données sur la question accessible en ligne. Une mine d'or immobilière. À l'échelle de la métropole, la ville estime qu'il existe environ 800 bâtiments à l'abandon sous son autorité, sans parler des immeubles laissés dans un état de détérioration parfois fort avancé. Ces immeubles mal aimés représentent une infime fraction des 509 328 bâtiments répertoriés sur l'île de Montréal. Mais ils constituent tout de même des abcès pour quantité d'artères de la ville, tout en représentant un manque d'appartements en pleine crise du logement. Cependant, aux yeux de certains propriétaires, ces bâtiments vacants constituent une mine d'or qui ne cesse de prendre de la valeur, même si leur état se dégrade. Pourquoi alors investir de l'argent pour leur rendre la vie? Le gros dilemme, c'est que depuis quelques années, il y a une forte augmentation de la valeur des terrains et souvent, le bâtiment est sous-évalué et le terrain est surévalué, explique l'architecte Ron Rayside de la firme Rayside de Labossière. Donc, pour certains, c'est un encouragement à laisser l'immeuble se détériorer parce que l'acheteur acquiert le terrain et non l'immeuble. Vous écoutez, seulement 24 amendes pour 800 bâtiments à l'abandon à Montréal, suivi de « Des bâtiments délabrés des propriétaires décidés à ne pas bouger », deux textes de Zachary Goudreau et Jean-François Nadeau, parus le 7 août 2024 dans Le Devoir. L'entretien, une question de sécurité. En vertu du bouquet de mesures réglementaires adoptées par Montréal fin octobre 2023, l'enveloppe extérieure de tous les bâtiments, par exemple une corniche, une terrasse, un balcon, des escaliers, une gouttière, etc., doit être maintenue en bon état. Il en va de même pour les éléments extérieurs, toiture, murs, fondations, joints de mortier, portes et fenêtres doivent être préservés dans l'intérêt commun. Des amendes sont prévues. Pour les immeubles patrimoniaux, il pourrait en coûter jusqu'à 250 000 $ aux propriétaires insoumis. Même si ça semble être des sommes très élevées, quand on a des projets de plusieurs dizaines de millions de dollars qui pourraient être construits sur ces terrains, des amendes de cette envergure-là, ce n'est pas la fin du monde, explique Gérard Baudet, professeur d'urbanisme à l'Université de Montréal. Dans plusieurs secteurs de Montréal, explique-t-il, des changements au plan d'urbanisme ont fait grimper la valeur des terrains. Le potentiel de développement, notamment en hauteur, est devenu plus important. De la sorte, la ville crée des conditions extrêmement favorables pour que les propriétaires puissent aller chercher une plus-value considérable, en laissant leurs bâtiments dépérir pour revendre leur terrain des années plus tard ou encore pour construire un nouvel immeuble une fois que l'ancien aura pu être démoli en raison de sa désuétude avancée. Ces bâtiments vacants, en plus de priver des locataires de logements potentiels, peuvent représenter un important risque en matière de sécurité incendie pour les immeubles qui les entourent, note M. Baudet. Un bâtiment de 5 logements sur l'avenue Papineau, qui a été la proie des flammes en mai 2022 et d'ailleurs toujours laissé à l'abandon 2 ans plus tard, avec ses fenêtres placardées et sa façade calcinée. Le propriétaire n'a reçu aucun avis de détérioration de la part de la ville pour ce bâtiment situé dans Ville-Marie, qui, lui aussi, n'est desservi ni en eau ni en électricité, alors qu'il était occupé par des locataires il y a quelques années à peine. Lors du passage du devoir vendredi le 2 août 2024, le bâtiment détonnait parmi les chics condominiums bâtis aux alentours. Par une des rares fenêtres non placardées, on pouvait apercevoir le toit qui s'est effondré à l'intérieur du bâtiment en ruine, derrière lequel une tente a été installée par une personne en situation d'itinérance. Une des portes arrière du bâtiment était d'ailleurs ouverte. C'est dangereux pour le feu. l'occupation illégale et les drames sociaux qui peuvent se passer dans des immeubles vacants, dit Ron Reeside. Pourquoi la ville n'agit pas là-dessus? Je ne sais pas du tout. Un méchant coup d'argent pour les propriétaires. Le règlement adopté par la ville n'est d'ailleurs pas le seul outil sur lequel Montréal peut s'appuyer. Plusieurs articles de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme peuvent être utilisés pour éviter qu'un immeuble se retrouve dans une situation d'abandon, explique Charles Breton de Meule, professeur de droit municipal à l'Université du Québec en Outaouais. Depuis son adoption en 1979, cette loi permet aux municipalités d'agir devant une construction dont l'état de délabrement est tel qu'il représente un danger pour les citoyens ou qu'il a perdu la moitié de sa valeur, à cause de sa vétusté ou pour d'autres raisons. La Cour supérieure peut, à la demande d'une municipalité, ordonner l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des personnes ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la démolition de la construction. Or, même le recours à de pareilles mesures se fait à l'avantage des propriétaires, soutient le professeur Gérard Baudette. Ils font un méchant coup d'argent lorsqu'ils subissent une expropriation de la part de la ville, qui doit alors remettre au propriétaire une somme équivalente à la valeur marchande de la propriété expropriée. C'est assez odieux de voir que des propriétaires, qui ont des comportements quasi criminels dans certains cas, finissent par empocher un magot à la fin de tout ça, dit-il. La ville de Montréal dispose d'ailleurs d'un droit de préemption qui lui donne la priorité pour l'achat d'un bâtiment lors de sa mise en vente. Elle a d'ailleurs envoyé un tel avis dans les dernières années au propriétaire d'un bâtiment vacant de 11 logements de la rue Clark, dans le quartier chinois, bâtiment qui n'a cessé de se dégrader au cours de la dernière décennie. Mais puisque l'immeuble n'est pas à vendre, il continue donc de dépérir dans une agonie sans fin. Des bâtiments délabrés, des propriétaires décidés à ne pas bouger. Second texte. Des propriétaires montréalais accumulent des amendes impayées pour des bâtiments délabrés sans pour autant corriger le tir. La manœuvre leur permet de revendre à profit leur propriété sans même devoir investir pour l'entretenir. Entre-temps, des locataires font les frais d'un parc immobilier qui se dégrade, parfois au point de menacer leur sécurité et leur santé. La Ville de Montréal affirme que les inspecteurs du service de l'habitation ont visité l'an dernier près de 2500 logements dans le cadre d'interventions en salubrité. Quelque 70 amendes auraient été données dans le cadre de ces visites, contre 35 en 2022. Mais sont-elles efficaces? 31 infractions, aucune rénovation. 40 700 $. Voici ce que les propriétaires de deux bâtiments adjacents situés à l'angle de la rue Grenet et du boulevard Gouin-Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, ont déboursé depuis 2019 pour l'accumulation de 31 constats d'infraction au règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements. Les manquements montrés du doigt n'ont pas pour autant été corrigés, comme en témoigne l'accumulation des amendes pour les mêmes motifs. Qu'est-ce qui est reproché à ces bâtiments? Notamment la présence d'insectes et de moisissures, un manque flagrant d'entretien et même des problèmes d'accès à l'eau potable dans certains logements. Anne Levac-Noiseux, organisatrice communautaire au comité logement Ahuntsic-Cartierville, a épaulé les locataires touchés par cette situation. Selon elle, rien n'a été fait par les propriétaires pour améliorer l'état de ces deux immeubles construits en 1966, raconte-t-elle au Devoir. Les données de la ville montrent d'ailleurs que les derniers permis octroyés pour des travaux dans ces bâtiments remontent à 2015. Ça empirait de jour en jour, se rappelle Mme Levac-Noiseux. Elle précise que les locataires de ces logements étaient surtout des personnes très vulnérables à risque de sombrer dans l'itinérance. Le loyer de leur logement oscillait entre 400 $ et 800 $. « C'est un des pires immeubles que j'ai visités », affirme celle qui en a pourtant vu d'autres. Elle se souvient bien, dans ce cas précis, des infestations de souris et de punaises de lit. Vous écoutez seulement 24 amendes pour 800 bâtiments à l'abandon à Montréal, suivi de des bâtiments délabrés des propriétaires décidés à ne pas bouger. Deux textes de Zacharie Goudreau et Jean-François Nadeau, parus le 7 août 2024 dans Le Devoir. Vente à profit. Les balcons et les escaliers de ces deux bâtiments sont d'ailleurs en si mauvais état que les locataires C.C. Collier et Gobou Sagnot, parents de trois enfants, ont dû se battre en octobre 2023 devant le tribunal administratif du logement, TAL, contre le représentant des propriétaires, Charlie Tang, afin de presser celui-ci de réaliser les réparations nécessaires afin qu'ils puissent au moins accéder à leur logement et récupérer leurs biens personnels. En septembre 2023, les locataires avaient été évacués par le service de sécurité incendie de Montréal. Les pompiers craignaient pour leur sécurité en raison de l'état de dégradation avancé de certaines parties du bâtiment, montre une décision du TAL rendue le 4 juillet 2024. Les deux locataires à l'origine de ce recours ont alors déménagé à la demande de la ville et ont réclamé des dommages-intérêts aux propriétaires des lieux. Ce dernier n'a pas donné suite aux demandes d'entrevue du Devoir. Ils ont été forcés d'évacuer leur logement avec leur famille à la demande de la ville de Montréal, puisque les balcons et les cursives comportaient un danger pour leur sécurité, indique le jugement, qui a accordé une compensation d'environ 2 700 $ aux locataires aux frais du propriétaire. Ce dernier, pour sa part, n'a jamais entrepris de travaux, même à la suite d'une mise en demeure transmise par les locataires, précise la juge administrative Amélie Dion. Les locataires ont depuis quitté les lieux, comme l'ensemble des détenteurs d'un bail dans ces immeubles, résume C.C. Collier en entrevue au Devoir. « Je m'inquiétais pour mes enfants », se remémore le père de famille, qui a logé avec ces derniers dans trois hôtels avant de dénicher en juillet 2024 un appartement assez grand pour ses besoins. Les deux immeubles au cœur de ce litige ont d'ailleurs été vendus en mars 2024 à une entreprise détenue par le promoteur immobilier Henri Zavriev. Il a acquis les bâtiments pour 4 351 000 $. Les anciens propriétaires avaient acquis les lieux pour 2,9 millions de $ en 2017. Ils ont ainsi réalisé un gain à la revente de 1,45 million en 7 ans. Des amendes peu efficaces. Ça montre que les amendes de la ville n'ont pas de répercussion sur la possibilité du propriétaire de vendre l'immeuble et de faire des profits, même lorsqu'il s'agit de taudis, dit en soupirant Anne Levaque-Noiseux. Elle déplore que les amendes imposées ne soient pas dissuasives pour les propriétaires qui négligent l'entretien de leurs immeubles. Les Montréalaises et les Montréalais, dont une vaste majorité de bons propriétaires, ne devraient pas avoir à payer pour l'insouciance et les mauvais comportements d'une minorité de mauvais propriétaires, indique par écrit le cabinet de la mairesse Valérie Plante. Ce dernier affirme déployer des efforts inédits afin d'assurer le suivi des cas problématiques et avoir une meilleure connaissance de la situation sur l'ensemble de son territoire. En incluant les inspections de logements réalisées localement par les arrondissements, le nombre de celles-ci pourrait s'approcher de 10 000 cette année, évalue la Ville de Montréal. Ce nombre s'est élevé à 6 900 l'an dernier. Les dizaines d'amendes infligées annuellement peuvent pour leur part atteindre 5 000 $ pour une personne physique, et 10 000 $ pour une personne morale. Or, les revenus tirés de la location de taudis sont tellement élevés que ces amendes sont insignifiantes, lance Gérard Baudette, professeur d'urbanisme à l'Université de Montréal. Des locataires qui sont souvent dans une situation très précaire écopent ainsi d'un système qui avantage les propriétaires en ne décourageant pas ceux-ci de négliger l'entretien de leurs immeubles, souligne l'expert. Des avis de détérioration sans effet. En 2019, ces deux immeubles de la métropole se sont vus infliger un avis de détérioration de la part de la ville. Des travaux exigés pour des raisons de sécurité n'y avaient pas été effectués. Un avis de détérioration est une inscription légale au registre foncier qui donne, en théorie, la possibilité à l'administration municipale de forcer les propriétaires actuels et futurs, à réaliser les travaux requis pour remettre ces lieux dans un état habitable. Si cet avis est inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours et que les travaux requis n'ont pas été faits, la ville peut prendre possession du bâtiment, prévoit la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Cela n'a pas été fait pour ces deux immeubles. Cette situation est loin d'être unique. Par courriel, la ville affirme qu'elle assure un suivi régulier de tous les bâtiments visés par un avis de détérioration sur son territoire afin que les réparations exigées y soient effectuées. Elle peut d'ailleurs, dans certains cas, réaliser elle-même ses travaux pour corriger rapidement une condition dangereuse dans un immeuble et éviter, par exemple, une évacuation des locataires. Elle a toutefois rarement recours à ce levier. Bien que la ville puisse agir en lieu et place dans des cas urgents où le bâtiment devient dangereux, cette pratique ne peut devenir la norme, fait valoir le cabinet de la mairesse Valérie Plante. Il faut utiliser nos leviers avec discernement et utiliser les fonds publics à bon escient. Des avis qui remontent à 2012. En pratique, on ne compte que 28 avis de détérioration en vigueur à Montréal pour autant de bâtiments situés sur le territoire de la métropole. Certains remontent à 2012, et la situation n'a toujours pas été corrigée. Parmi les avis de détérioration signifiés par la municipalité, 29% l'ont été il y a plus de 5 ans. Les immeubles visés par ces avis comptent en tout 363 logements. Le 7 janvier 2012, Montréal avait par exemple enregistré un avis de détérioration pour un immeuble situé au 2520-2530 rue Centre. 14 ans plus tard, la compagnie à numéro visée par l'avis, basée en Ontario, ne s'est toujours pas conformée aux demandes de la ville. Dans 39% des cas, ces avis de non-conformité concernent des immeubles de plus de 10 logements, a constaté Le Devoir. Questionné au sujet de ses plans concernant les deux bâtiments qu'il a acquis en mars dans Ahuntsic-Cartierville, Henri Zavriev indique qu'un des créneaux de son entreprise consiste à acquérir des immeubles ayant grandement besoin de rénovation et à enclencher le processus en vue de les réaliser. Le promoteur affirme ainsi être prêt à investir des millions de dollars pour rénover ces immeubles dans un état de délabrement avancé afin d'en faire un espace accueillant et sécuritaire pour les futurs occupants. C'était seulement 24 amendes pour 800 bâtiments à l'abandon à Montréal, suivi de des bâtiments délabrés, des propriétaires décidés à ne pas bouger. Deux textes de Zachary Goudreau et Jean-François Nadeau, paru le 7 août 2024 dans Le Devoir.
Faire pousser l'asclépiade, un petit geste important pour sauver le papillon monarque. Un reportage de Ritter Mratti de CBC, paru le 10 août 2024 sur Ici Terre-Neuve et Labrador. Pour relancer l'espèce en voie de disparition, il faudra un effort concerté du Canada, des États-Unis et du Mexique. Cultiver une plante essentielle à la survie des papillons monarques est un geste important pour aider à relancer cet insecte en péril, mais l'espèce fait face à des dangers tout au long de sa route à travers le Mexique, les États-Unis et le Canada. Stephen Hurd, biologiste à l'Université du Nouveau-Brunswick, UNB, explique comment les facteurs qui contribuent au déclin du papillon monarque se retrouvent en Amérique du Nord. Les monarques se reproduisent en hiver dans les montagnes centrales du Mexique, mais dans une zone assez petite, ce qui les rend plus vulnérables au mauvais temps ou aux perturbations causées par l'activité humaine. Ils ont de moins en moins d'espace pour y séjourner. Pendant l'hiver 2023-2024, l'espèce occupait seulement 2,2 acres, comparativement à 5,5 acres l'année précédente, selon le recensement du papillon monarque par le Fonds mondial pour la nature. C'est une baisse de 59%. En route vers le nord, les larves de papillons monarques se nourrissent d'asclépiades. Cette plante est leur seule source de nourriture. Plusieurs meurent parce que ces plantes sont dans des champs qui ont été arrosés de pesticides comme le glyphosate. Lorsque les asclépiades ne sont pas contaminées par des pesticides, elles passent souvent sous les lames des tondeuses à gazon ou sont détruites lors du déboisement de certaines zones comme les champs, les fossés ou les rives des étangs. Les larves de papillons monarques n'ont donc plus de nourriture. Sans asclépiades, il n'y a plus de papillons monarques, résume le biologiste. C'est entièrement de notre faute, déplore Stephen Hurt. Conséquemment, dit-il, chacun peut faire un geste qui va contribuer au bien-être des monarques et aider à freiner leur déclin. Au Nouveau-Brunswick et à d'autres endroits, des citoyens et des municipalités veulent aider le papillon monarque, qualifié d'espèce en voie de disparition au Canada depuis 2023, en faisant pousser de l'asclépiade. À Dieppe, la municipalité a aménagé un jardin pour le papillon monarque afin de lui offrir un espace de reproduction et d'alimentation. Un jardin d'asclépiade incarnate a été dévoilé plus tôt cet été près du centre aquatique. Quelques passionnés élèvent aussi le papillon. C'est ce que Réal Viano fait au Nouveau-Brunswick depuis deux décennies. Il élève et relâche quelques centaines de monarques chaque année. Il ne fait cependant pas la promotion de cette pratique. L'élevage est complexe et n'est pas la solution magique pour sauver l'espèce, prévient-il. Élever des papillons a un effet minime, dit-il. C'est mieux de planter de l'asclépiade et de l'étaler à plusieurs endroits. Le biologiste Stephen Hurd est d'accord parce que la situation est complexe. Si on élève des monarques dans notre cour, ça n'aura aucun effet sur le déboisement de leur zone d'hivernage au Mexique, note-t-il. Pour sauver le papillon monarque, il préconise une approche complète qui peut inclure l'élevage, mais il faut surtout, selon lui, limiter l'emploi des pesticides, stopper la perte des habitats de la faune et de la flore et planter des asclépiades. Il se dit optimiste. Car de plus en plus de citoyens ont à cœur la survie des espèces comme le papillon monarque. Si chacun fait une petite contribution, on y arrivera, déclare-t-il. C'était Faire pousser l'asclépiade, un petit geste important pour sauver le papillon monarque, un reportage de Rhythm Ratti de CBC, paru le 10 août 2024 sur Ici Terre-Neuve et Labrador.